Betu Teyeu de l'Enrique sur 95.4 des radios Lengadoc, Montpellier 7 à l'Est.
Adicias a tutes los auditus que nos escutan sur 106.7 del costat de Miau e Sud Aveiro e de pel mundo entier sur la teleinformatique www.radiolengadoc.com. Aquel tetu teieu començarà bé i a me, gran merci a vos, a me Mahmoud Alaya, que nos ven entretene d'una associació de paraules de paisans del món, d'accord?
Bon, non,
bonsoir. En fait,
bonsoir, bonsoir. Bon, c'est moi, pour moi un grand plaisir de présenter aujourd'hui une autre association, c'est l'association des écrivains paysans.
Ah, alors, pardon.
C'est une association qui existe depuis les années 70. Et c'est un grand plaisir pour moi que de la présenter à nos chères auditrices et auditeurs, parce que c'est une association très originale, qui gagne beaucoup à être connue, et elle fait un travail remarquable et très utile. Alors, cette association, si on veut évidemment avoir plus d'informations, elle a un site qui s'appelle écrivain au pluriel avec s-paysan. écrivainpaysan.com.
D'accord.
Voilà, ça c'est l'adresse du site. D'accord. Où on peut trouver beaucoup plus d'informations que je vais en donner.
Bien sûr.
Mais disons, cette association a été créée par quelques paysans au début des années 70. Aujourd'hui, elle regroupe plus de 150 adhérents qui veulent tous apporter des témoignages par leurs écrits et leurs œuvres, parce qu'il n'y a pas que des écrivains, mais il y a aussi des artistes, chanteurs, sculpteurs, peintres, photographes, etc., qui veulent témoigner de la vie paysanne, la vie des paysans d'hier et d'aujourd'hui.
Alors,
et surtout et surtout des valeurs auxquelles ils sont attachés.
D'accord. Alors, dans toutes aquelles écrivains, parmi tous ces paysans, on retrouve de partout en France.
Oui, oui, oui. Il y en a un peu partout. Uh-huh. Et justement, l'association n'est peut-être pas très connue dans différentes régions. Et ce serait bien que les gens qui veulent adhérer, eh bien, ils se reportent à l'adresse que j'ai indiquée tout à l'heure. Mm-hmm. Je la reprendrai.
D'accord.
Et trouveront les informations. Mais il y a déjà, je vais vous dire, bon, il y a un catalogue avec des livres et des ouvrages. Il y a plus de 400 ouvrages qui ont été collectés, etc.
Quand même.
Et oui, oui, c'est des... Bon. Donc, cette association, c'est vraiment le seul lieu de rassemblement pour les livres écrits par des paysans eux-mêmes. Hein. Ces gens qui parlent du monde rural, de son patrimoine, de son histoire, de son savoir-faire, ses aspirations, ses espoirs. C'est une association qui n'a pas la prétention de recueillir tous les écrits des paysans, mais déjà, il y en a un certain nombre. Elle n'a pas non plus l'ambition d'avoir des best-sellers, si l'on veut. Mais son but, c'est de promouvoir un peu les ouvrages ancrés dans le vécu. Hein, c'est ça l'avantage, c'est-à-dire ce sont des gens qui parlent de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ont vécu. Mm-hmm. Voilà. Alors, chaque année, l'association édite un catalogue. Alors, moi, ce catalogue, il contient plusieurs centaines de livres et qui contient de merveilleux ouvrages qui nous font voyager un peu dans les campagnes françaises, les campagnes d'hier et d'aujourd'hui. Hein, c'est dans le temps et à la découverte un peu du terroir, de la richesse de la France, des nombreux terroirs qui existent. Voilà. Donc, je vais vous citer quelques exemples, simplement, de titres pour vous dire. Il y a « Contes et nouvelles de terroir », voilà un titre. « Afin que rien ne se perde », voilà un autre titre. « Pour l'amour de l'olivier »,« La Marie des bois »,« Un printemps pour aimer »,« Nos villages à l'heure ancienne »,« De mer inconnue
hein »,«
13 grains de maïs », La moisson sans grains, etc., etc. Ce sont des titres d'ouvrages, je n'ai pas parlé de leurs auteurs et tout ça, mais c'est évocateur, si vous voulez, pour les lecteurs. Si des gens veulent acquérir, évidemment, ces livres, ils se reportent à écrivain, écrivain avec S, tiret paysan avec S.com.
Voilà. D'accord.
Alors, de quoi parle un peu cette littérature originale ? Eh bien, c'est une littérature que je trouve, moi, j'ai lu beaucoup de ses livres, qui est très riche en enseignement et qui a une grande diversité. Mais on y trouve les grandes questions qui se posent aux paysans, mais pas seulement, qui se posent aux citoyens d'une manière générale. Alors, je citerai principalement, disons, quatre séries de grandes questions toujours présentes, hein, ici et ailleurs, si vous voulez. Il y a d'abord la question liée à la recherche de nos racines. Hein, le retour aux sources, en quelque sorte. Ah. Si chacun de nous remonte un peu à trois générations ou deux générations dans le temps, il va trouver des parents à lui qui sont paysans. Parce qu'on vient tous de ce monde paysan, si vous voulez. Ah. Alors, évidemment, ce témoignage un peu sur le passé, ce retour vers le passé, est très formateur et très instructif. Hein, c'est un peu d'où l'on vient et où on est arrivé, où on en est maintenant.
Et où l'on va.
Comment ça s'est passé, quelles sont les raisons, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, comment, etc. Tout ça se trouve dans du vécu ou du romancé, bien sûr, mais bon, selon l'inspiration de l'auteur, on trouve des choses remarquables. Alors, en Bretagne, en Auvergne, en Gascogne, en Alsace, etc., etc.
Donc, alors, moi j'aurais une question de vous poser. Los livres, toutes aquelles livres, il y a des livres qui sont écrits dans une autre langue que le français ou non ?
Il y a, mais bon, moi je ne connais pas beaucoup, mais il y a notamment les Gascons qui ont écrit, bon, c'est en occitan, Gascon. Ouais, ouais. Il y a évidemment dans le pays gallo, enfin Bretagne, là, qui ont écrit aussi en gallo.
En gallo.
Chez les Normands, il y a aussi, il y a même quelqu'un qui a fait un petit dictionnaire des langues, des mots, disons, qui ont disparu, pourquoi ils ont disparu, etc. etc. Ah. Il y a des choses comme ça, je vous montrerai.
C'est intéressant.
Voilà, je vous montrerai. Ça, c'est, il y a ceux qui s'intéressent aux mots, à leur histoire, mais aussi aux dictons, parce que les dictons paysans résument parfois des situations extraordinaires en quelques mots. Hein. Et donc, ça existe, c'est très intéressant. Alors, ça, c'est la première question, le retour aux sources, en quelque sorte. Et c'est toujours présent parce qu'il faut y réfléchir, il faut voir d'où nous venons et comment nous sommes arrivés là où nous sommes. Mmh. Voilà. Bon, c'est instructif. La deuxième question, qui est très, très importante aussi, c'est liée à l'alimentation. L'alimentation et la santé. Parce que, bon, les paysans sont à la base un peu de l'alimentation. Mais après, il y a eu l'agro-industrie, l'agroalimentaire qui a pris le dessus. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, dans les pays comme la France, disons, c'est plus les produits qui viennent des paysans, ils viennent, mais ils sont transformés après. Et alors, quelle est la responsabilité ? Comment on a fait ? Est-ce qu'on a fait des bons produits, des mauvais produits, etc. Toutes ces questions-là, on les retrouve aussi dans cette littérature. Ça permet de réfléchir, de voir où nous allons, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'angoisse quant à la malbouffe, quant aux aliments qui sont peut-être pas très bons, etc. Le retour aux aliments sains, l'agriculture biologique, etc. etc. Donc ça, c'est une deuxième série de questions très préoccupante et encore une fois qui concerne tout le monde, pas seulement les paysans. Il y a une troisième question que je trouve moi fondamentale aussi, qui est toujours, c'est le revers, disons, de la chose, parce que dans les pays développés, bon, on n'a plus beaucoup de soucis, encore qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, mais dans le monde, dans les pays en voie de développement, eh bien, ce problème de
C'est une question centrale.
Voilà, la question de la faim dans le monde. Mmh. Il ne faut pas oublier qu'il y a un milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim, qui souffrent de malnutrition. Et donc, cette question est centrale. Comment nourrir le monde ? Quelle est la position des paysans face à ça ? Il y a enfin une quatrième série, parce que j'ai dit, je prends quelques-unes seulement, qu'on retrouve un peu dans cette littérature. Encore une fois, c'est pas analysé de façon scientifique, mais c'est romancé ou écrit par des gens qui l'ont vécu. Hein. Et donc, il y a la question de la préservation des ressources naturelles. Alors là aussi, c'est un chapitre nouveau hein, qui s'est ouvert depuis quelques années sur la préoccupation de l'écologie, du développement durable, comment faire de l'agriculture tout en gardant la nature, en laissant aux générations futures quelque chose qui est durable. Voilà. Et donc ça, c'est très très important aussi. Vous voyez, donc c'est riche comme littérature et on peut retrouver chacun son bonheur, soit pour connaître telle ou telle région, telle habitude, telle plante. Il y a aussi des livres sur les plantes, d'accord, sur les recettes même de cuisine, c'est-à-dire comment on faisait telle ou telle...
Aussi à Douba, des blés de salvage,
voilà,
jamais...
Voilà, le blé noir, etc. Voilà, c'était, je voulais absolument que les auditeurs et auditrices, disons, sachent l'existence de cette association, se reportent à son site.
Kezlou, écrivain au pluriel,
tiré paysan au pluriel, .com. Voilà.
D'accord.
Et là, on trouve un peu les ben, alors, ce site, il est encore en train...
Le catalogue?
On trouve le catalogue, on trouve les adresses, on trouve les personnes à qui on peut s'adresser et on trouve un peu le lien parce qu'ils écrivent chaque année un petit... lorsqu'ils se rencontrent, disons, ils font un peu l'état des lieux et ils mettent ça sur le site. Voilà.
Alice me ben quiere et me prend per la main montages ma guitare nous en anemula un lutener espaci sous forso barrejats e virar en las pagios de país embreixat. Sei tard avans a porto un basque dormissió, un amiral d'Espanyo passavo en auto. Sei tard avans a porto un basque dormissió, un amiral d'Espanyo passavo en auto. Es torne de tru basque, sem voler l'amiral. Criden vivo l'armado, mado del Portugal. Criden vivo l'armado, mado del Portugal. Giul garric di giustizio, pastrasso de San Luis. Me spengio a talabranco, Pinochet lo bendit. Giul garric di giustizio, pastrasso de San Luis. Me spengio a talabranco, Pinochet lo bendit. La paz e la giustizia passaron per l'Arzac, es un can de vacanzos, l'ubiel can militar, es un can de vacanzos, l'ubiel can militar. La gent du cittanio volio pas embarcar, los altres mai nombroses nos forceron la mà. La gent du cittanio volio pas embarcar, los altres mai nombroses nos forceron la mà. E de tan prene l'aigo, sen funset l'ubateu. Da cosero a lavaro, te fagues pas perel. Da cosero a lavaro, te fagues pas perel.
Tornamai sul TTTIEU dell'Enric 95.4 Radio Lengadoc Montpellier 7 à l'Est, 106.7 del Custat de Miao et Sud Avairou et de Pelmund entier sur la téléinformatique www.radiolengadoc.com. A questa sera recevendo din lo TTTIEU Mahmoud Alaya che nous vengono entretenere un po' delle parole e delle scritture des paysans per testimoniare donc a rampelat aquí quatre grandes problématiques a me entre autres d'aquel temps que c'est de la conférence de Copenhague.
Ah voilà.
Donc entre autres la faim, la famine aquí de pel monde que il y a à peu près 1 milliard de personnes qui mangent pas dans leur talent.
Oui.
Hein, on en dire.
Bon. Alors, bon, moi je voulais cette fois-ci, disons, comme on est avec la conférence de Copenhague, c'est sur l'écologie et sur le développement durable, j'ai voulu présenter un de ses auteurs de l'association d'écrivains paysans. Mm-hmm. C'est un paysan lui-même, donc, et qui est plein de sagesse et d'humilité, si vous voulez. Il a écrit une petite fable sur, justement, on va l'écouter, sur le développement durable et les précautions à prendre, parce que si on y va comme ça, on va aller dans le mur, quoi, si vous voulez.
D'accord.
Alors, il s'appelle Roger Bitonneau, c'est un paysan de l'île d'Oléron, qui est aujourd'hui retraité. Roger, il est forcément influencé par un environnement maritime qui est envoûtant, mais aussi parfois tragique, parce que périlleux, mm-hmm. les îles, etc. Il a publié un livre de contes intitulé « Sur les falaises de Chassiron ». Chassiron, c'est une commune de l'île d'Oléron, dont il a été maire pendant plusieurs années. Et on retrouve un peu l'identité insulaire de ce paysan de l'île. Hein, l'île d'Oléron, qu'on qualifie de lumineuse, la lumineuse. Mm-hmm. Il a été longtemps engagé dans la vie associative et publique. Il a été également donc maire de sa commune. Et pour moi, c'est vraiment la sagesse paysanne qui parle. Donc, on va écouter d'abord un peu cette fable qui s'intitule « L'île aux mouettes ». Et puis, on pourra parler un peu de cette thématique.
L'île aux mouettes, c'était une petite île de la côte atlantique. Une île un peu bleue entre le ciel et la mer. Une île un peu verte avec ses forêts de pins, ses vignes et ses prairies. Une île avec de longues plages de sable fin, blondes comme les blés mûrs, où la mer vient mourir doucement en faisant tout en haut une bordure d'écume blanche frisée, comme la dentelle que faisaient les femmes autrefois dans les maisons. Les habitants de cette île étaient principalement paysans et pêcheurs, mais il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de limite, tout était très imbriqué. Les pêcheurs cultivaient généralement un lopin de terre ou de vigne, et les paysans allaient souvent faire une marée, et apparemment tout le monde vivait heureux. Un des particularismes de cette île, sa grande particularité, c'était la présence d'une très importante colonie de mouettes. Les mouettes, comme les hommes, vivaient de la terre et de la mer. Elles accompagnaient régulièrement les pêcheurs dans leurs sorties, volant en piaillant autour des embarcations, se posant sans ménagement, sans restriction, sur les cordages, sur les pavois, sur les cabines des bateaux. Elles y laissaient bien quelques déjections, mais les pêcheurs lavaient tout cela au jet et acceptaient avec plaisir cette présence des oiseaux. Cette présence qui n'était pas désintéressée. Quand on relevait les filets, quand on relevait le chalut, les mouettes trouvaient dans les déchets de poissons une part de nourriture non négligeable. C'était une fraction de leur nourriture qu'elles glanaient ainsi auprès des pêcheurs. Quand la mer était mauvaise, quand la flottille restait au port, alors les mouettes se tournaient vers la terre. Et là, elles accompagnaient les paysans dans leur labour, et derrière chaque attelage, derrière chaque charrue, il y avait des centaines, peut-être des milliers d'oiseaux qui picoraient les vers et autres insectes que le versoir avait retournés. C'était la deuxième partie de leur nourriture que les mouettes trouvaient ainsi auprès des paysans. Il y avait, entre les hommes et les oiseaux, une complémentarité, une complicité, à telle enseigne que les mouettes, tenez-vous bien, étaient devenues des mouettes civilisées qui auraient eu beaucoup de mal à trouver leur pitance seules dans une nature qui, sans la présence des hommes, leur était devenue étrangère. Mais tout allait bien comme cela. Arrivèrent sur cette île les premiers touristes. Oh, cela ne posa pas de problème. On aménagea quelques résidences, construisit quelques maisons, aménageant quelques terrains de camping. Cette nouvelle population s'intégra bien avec les habitants, les nouveaux arrivants accompagnant souvent dans leurs travaux les paysans ou les pêcheurs. Parce qu'il faisait bon sur cette île, parce que la vie y était agréable, le nombre des touristes augmenta régulièrement et d'une manière importante sans pour autant créer de véritables problèmes. On avait agrandi les terrains de camping, on avait construit d'autres résidences, on n'avait pas eu à mettre en place d'infrastructures lourdes. Par exemple, on avait conservé L'ancienne décharge publique et tous les habitants y portaient leurs déchets. Et dans cet équipement, même les mouettes avaient trouvé un complément de nourriture non négligeable. Vous voyez, l'expansion touristique douce, spontanée, peut-être un peu sauvage, avait vraiment bouclé le cercle du développement, apportant aux hommes et aux oiseaux une vie meilleure et plus agréable. Mais heureuses ou malheureuses, les choses ne restent jamais figées. Arrivèrent un jour dans cette île, à bord d'une luxueuse vedette, un promoteur, un économiste et un financier. Après étude du milieu, ces messieurs déclarèrent l'île sous-développée, une agriculture marginale qui ne correspondait plus à rien, une pêche artisanale complètement périmée, désuète. Non, de l'autre côté, dans les ports de la Grande Terre, on avait des chalutiers autrement performants. Si on voulait développer ce pays, il fallait se tourner vers un tourisme de classe, vers un tourisme de luxe. Parmi les habitants, que l'on prit à peine le temps de consulter, les avis furent partagés. Les fonceurs, les gagneurs, étaient partisans du développement touristique inconditionnel. D'autres émirent des avis plus réservés. On les taxa d'un conservatisme désuet. Et les mouettes dans tout cela, quel est-elle devenir? On répondit qu'elles garderaient leur place, toute leur place, mais déjà dans le port. La flottille de pêche avait été remplacée par des bateaux de plaisance, par des yachts. Quand les oiseaux voulurent s'y appuyer, les nouveaux propriétaires les chassèrent. À cause des fientes, on mit en place des filets anti-mouettes. Les mouettes d'un naturel optimiste ne s'alarmèrent pas trop. Il y avait encore la terre pour les nourrir. Oui, mais justement, sur terre, les choses changeaient vite. Le béton remplaçait les terres agricoles. Plus de labour, plus d'insectes, plus de vermisseaux. Les mouettes étaient sous-alimentées. Leur pérennité n'était plus assurée. Et alors qu'on les chassait de partout, qu'elles ne savaient plus trop à quel sein se vouer, elles eurent l'idée d'organiser à la préfecture dont dépendait leur île une manifestation de protestation. Pour donner plus d'ampleur à leur mouvement, elles alertèrent les mouettes bretonnes et les mouettes basques qui avaient le sens de l'identité régionale et de la maintenance du patrimoine. Les mouettes bretonnes vinrent très nombreuses, renforcées au passage par celles de Vendée qui s'étaient elles aussi senties concernées. Survolant la côte landaise, les mouettes basques vinrent encore plus nombreuses. Les mouettes corses, qui avaient été alertées, adressèrent un télégramme de soutien, ne pouvant se déplacer en raison d'une situation locale préoccupante. Alors, quand tous les oiseaux furent rassemblés sur la plage en voie d'aménagement, les organisateurs purent être fiers de ce rassemblement. Il était digne des légions romaines. Il y avait des milliers d'oiseaux prêts à prendre leur envol vers la préfecture. On donna des consignes de calme et de non-violence et portés par un bon vent d'ouest, les mouettes furent vite en place, occupant les rues de la ville, bloquant la circulation sous l'œil étonné, mais finalement compréhensif de la population. Elles respectaient les consignes de calme jusqu'au moment où elles aperçurent sur un immense panneau publicitaire que le sigle du développement touristique de ce département, ce développement touristique qui les faisait mourir, c'était deux mouettes. Alors là, leur colère ne connut plus de limite. À coups d'ongles, à coups de bec, à coups de griffes, elles attaquèrent les locaux administratifs, bousculant les huissiers et le personnel qui durent se réfugier dans les placards. En désespoir de cause, on appela le responsable départemental, se précipita dans les couloirs pour parlementer, glissa dans la fiente d'oiseau, se cassa la jambe et refusa toute discussion. Et ce furent les pompiers. Les pompiers qui avaient été alertés, qui dispersèrent la manifestation sous les lances. La répression fut terrible. Il y eut des centaines, peut-être des milliers d'oiseaux qui périrent sous les lances de la répression. Les rescapés de cet holocauste se regroupèrent et reprirent leur vol vers l'inconnu. Ils survolèrent leur île, qu'elles ne reconnaissaient même plus, et fort heureusement, quelques milles plus loin, elles trouvèrent une île plus petite, mais où les hommes avaient gardé un environnement intelligent, une nature encore acceptable, où elles se posèrent. Et au début, Avec prudence, avec réserve, elles tentèrent de s'approcher des hommes qui finalement étaient heureux de les accueillir. Et peu à peu, elles reprirent cette vie de mouettes civilisées qu'elles avaient connues précédemment dans leur île. Quand le temps, qui est vecteur d'apaisement, quand le temps eut commis son œuvre, les mouettes eurent envie de revoir leur île, de savoir ce qu'elle était devenue. Elles y organisèrent une expédition de reconnaissance. Quelle ne fut pas leur surprise, l'île était morte. Leur belle île, un peu bleue, un peu verte, avait perdu ses belles couleurs. Elle était devenue terne, marron, couleur de Coca-Cola, couleur de mort. Les installations faramineuses que l'on avait mises en place s'étaient fermées, faute de rentabilité. Les touristes s'étaient lassés d'une vie artificielle dans une nature que l'on avait stérilisée. Dans les immeubles, les fenêtres étaient arrachées et les volets battaient au vent du large. Tel un vaisseau fantôme, l'île était devenue une source de légende. Si la légende de l'île fantôme met les hommes en garde contre les dangers d'un développement anarchique et inconditionnel, alors le sacrifice de cette île, qui fut un peu bleue, un peu verte, qui eut de belles plages de sable fin et des habitants heureux, n'aura pas été inutile. Ce fut la conclusion des mouettes.
Bah, qui Roger Bitonneau qui nous contava l'île de la de las gaviotas di Rian, hein, en un citant l'île de las gaviotas. Alors à quel conte est-ce un peu une allégorie, une métaphore de ce que le progrès de l'humanité fait sur la nature, l'impact.
Voilà. Donc le progrès, il doit être maîtrisé. Il doit y avoir un consensus, c'est-à-dire qu'on doit discuter avec les personnes et on doit tenir compte de la nature pour que les choses se fassent dans de bonnes conditions. Si on oublie les gens, si on oublie la nature et qu'on fonce comme ça parce que quelques calculs ou quelques ordinateurs a donné un scénario magnifique, eh bien, on risque d'aller dans le mur. Et beaucoup d'exemples sont comme cette légende sur les mouettes.
D'accord, grand merci. Ben, on désira que le monde nous écoute sur le coustade de Copenhague, sur le www.radiolengadoc.com. Grand merci à vous, Mahmoud Alaya, d'être venu.
Merci, tout le plaisir est pour moi.
Adicias.
Mais sous les bas de Boumati, per qui la lausetto,
l'ai pas finito.
Que m'abbios per...